ce soir, nous recevons Christophe Massin. Et nous sommes très contents parce que Christophe Massin est lauréat cette année du prix psychologie FNAC. je vois un monsieur qui en a plusieurs exemplaires. Le prix psychologie FNAC est décerné une fois par an à un essai, l'essai qui aide à mieux vivre sa vie. Et donc cette année, le choix s'est porté sur votre ouvrage. Alors vous êtes psychiatre, vous pratiquez, vous êtes psychothérapeute. Et la première question, moi, que j'ai envie de vous poser, parce qu'en fait, c'est la première question qui m'est venue à l'esprit quand nous avons fait la sélection, c'est le titre. Le titre m'a un peu étonnée, « Souffrir ou aimer, transformer l'émotion ». Alors, j'avoue que c'est le « ou » qui m'a un peu troublée. Je pensais peut-être qu'il aurait été plus logique de dire « souffrir », par exemple, hein, « et aimer », ou « souffrir, virgule, aimer », point d'interrogation, mais « souffrir ou aimer », j'avoue que j'étais un peu déroutée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi vous avez choisi ce titre?
Oui, c'est un titre qui s'est vraiment imposé à moi. Je sentais vraiment une alternative. C'est vrai que dans notre fonctionnement habituel, bon, la souffrance, tout le monde connaît, l'amour aussi, tout le monde connaît, mais il y a beaucoup de mélanges, en fait, et en français, il y a un seul mot pour désigner l'amour, ce qui est vraiment une source de confusion. Et le même mot est utilisé pour dire « j'aime le chocolat »,« j'aime pas les gens comme ci ou comme ça »,« j'aime une femme »,« j'aime Dieu ».«
J'aime mon chien ».«
J'aime mon chien ». Donc, des réalités qui sont extrêmement différentes. Donc, justement, je voulais aussi souligner l'utilisation de ce terme dans un sens bien précis, qui est un sens qui vient du monde de la spiritualité, parce qu'en grec, il y a plusieurs termes qui désignent l'amour, plusieurs mots en fait qui désignent l'amour, et donc justement l'amour spirituel, entre guillemets, a un terme particulier. Donc effectivement, c'est de cet amour-là dont j'ai voulu parler, c'est-à-dire un amour où justement il n'y a plus aucune souffrance. Parce que dans le romantisme, nous sommes très marqués par le romantisme et l'amour, tout le chant lyrique italien est rempli de « je meurs d'amour, je meurs de souffrance ». Donc on est dans le pathos le plus complet, donc où effectivement souffrir et aimer sont absolument indissociables. Mmh. Et presque si on ne souffre pas, c'est qu'on n'aime pas. Par exemple, si on ne souffre pas pour les gens qu'on aime, ça veut dire que c'est de l'indifférence. Donc c'est effectivement une question assez provocante. Donc justement, je voulais d'emblée poser une alternative claire. Qu'est-ce que c'est l'amour? Quel lien l'amour a avec la souffrance? Ce qui m'a semblé vraiment évident, c'est une vérité de base, c'est qu'il y a toujours un lien entre l'amour et la souffrance. C'est-à-dire que, de manière très résumée, si quelqu'un souffre, si on creuse un peu, toujours on va arriver au fait qu'il ne se sent pas aimé d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un manque d'amour. En fait, quel que soit, ça fait 30 ans que je pratique, quelle que soit la forme première de la souffrance, ça soit des déboires amoureux, mais pas seulement, des déboires dans la vie, des difficultés professionnelles. Finalement, on ne se sent pas aimé par l'autre, on ne se sent pas aimé par la vie elle-même, par les autres. Donc, la souffrance va toujours être l'expression d'un manque d'amour. Donc, ce qui déjà ouvre justement la perspective, dire mais qu'est-ce qui va guérir la souffrance, en fait, c'est l'amour.
Donc, justement, vous avez répondu avant même que je ne vous pose la question, c'est formidable. Je voulais vous poser la question de l'origine de la souffrance, parce que c'est un des premiers chapitres de votre livre, et vous venez de répondre. Donc, l'origine de la souffrance, pour vous, je vais vous demander de mettre votre micro un peu plus près. L'origine de la souffrance, pour vous, c'est donc le manque d'amour ou l'amour à mauvais escient. Alors, pour vous, vous rapprochez dans votre ouvrage l'amour et les émotions. Pour vous, c'est deux phénomènes sont étroitement liés. Donc, si je comprends bien, amour, émotion et souffrance font partie d'une même émotion, d'une même signification.
Du même registre. En fait, c'est le registre de l'affect. C'est la vie affective, donc on pourrait dire la vie du cœur, très simplement. Donc les émotions, c'est le cœur, l'amour, c'est le cœur, la souffrance aussi. Donc c'est... Oui, je n'ai pas le micro assez près. Comme ça, c'est mieux.
Oui.
Voilà.
Oui, je vous en prie.
Non, mais donc c'était ce point-là. Donc le lien entre l'amour et les émotions, ben, l'amour, c'est un sentiment durable, stable, au moins dans le sens où les traditions spirituelles le disent. Donc un sentiment qui est sans contraire. Si l'amour est l'opposé de la haine, ça veut dire que cet amour est instable. Si je bascule de l'amour à la haine, c'est que mon amour n'était pas que de l'amour, c'est qu'il y avait autre chose en même temps. Donc un amour ne s'inverse pas, un amour véritable ne s'inverse pas. Bon, l'amour en général le plus stable, c'est l'amour que les parents portent à leurs enfants. Donc même s'il y a des souffrances et des difficultés entre des parents et des enfants, ben, le parent, a priori, même s'il en souffre, il va continuer à aimer son enfant quoi qu'il arrive.
Oui, cet amour-là n'est pas remis en question.
Voilà. Donc, même s'il y a des émotions. Alors, les émotions sont des phénomènes normalement temporaires qui sont faits pour venir et partir, mais comme notre éducation, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été du tout éduqués à vivre et à faire avec nos émotions, souvent les solutions que nous avons avec nos émotions sont des solutions assez grossières où on essaye de les contenir, de les ravaler pour qu'elles ne dérangent pas trop et qu'elles ne perturbent pas trop nos relations avec les autres. Donc les émotions, on va les garder beaucoup plus longtemps. De ce fait, au lieu que ça soit un phénomène passager, elles vont nous occuper parfois durant de très longues périodes.
Même durant des années.
Même durant des années.
Pour réagir, ressortir plus tard.
Elles vont faire à ce moment-là obstacle à l'amour. Parce que si, je dirais, l'amour, c'est le fond, la toile de fond, voilà, les émotions vont créer des perturbations, des nuages, des tensions qui vont empêcher l'ouverture du cœur, parce que l'amour va se manifester à travers l'ouverture du cœur. Mais donc, chaque fois qu'il y a émotion, le cœur est bouleversé, il y a des tensions, il y a une agitation, et donc le cœur n'est plus en état d'aimer à ce moment-là.
Si je peux me permettre de revenir un instant sur un point, vous avez parlé de l'amour des parents pour leurs enfants et réciproquement. L'amour entre deux êtres, entre deux adultes, n'a rien à voir avec cet amour-là, parce qu'il y a une dimension qui n'existe évidemment pas dans la relation parentale parent-enfant, c'est la sexualité. Alors, comment est-ce que vous pouvez relier... enfin, est-ce que vous englobez dans un même panier, si j'ose dire, l'amour quel qu'il soit, c'est-à-dire l'amour des parents, l'amour qui s'exprime face, par exemple, à un paysage, ou l'amour amoureux?
Alors, à chaque fois, il y a l'amour avec autre chose.
Oui.
Enfin, où il peut y avoir l'amour, mais avec autre chose. Dans la relation parent-enfant, il y a un amour... comme celui dont on vient de parler, donc l'amour, je dirais, avec un grand A, et puis il y a aussi de l'attachement, des attentes, des projections sur les enfants, donc toutes sortes de choses qui vont aussi exister dans la relation et qui vont créer éventuellement des perturbations, des tensions, des incompréhensions entre parents et enfants. Donc ça, c'est une chose. Dans l'amour, dans un couple ou l'amour amoureux, ben, il y a la dimension de l'attirance, il y a la dimension de la sexualité, de la sensualité. Il y a toutes les attentes qu'on va projeter sur l'autre. Parce que, bon, de ses enfants, on attend des choses. De son conjoint ou de son amoureux, on en attend d'autres. Et donc, toutes ces attentes, ça n'est pas l'amour lui-même. Et là encore, ce n'est pas l'amour qui va poser problème. Jamais. C'est les attentes, ce sont les projections, c'est le désir insatisfait, c'est tout ça en fait.
Alors, comment arriver à repérer ces émotions dont vous dites qu'elles sont un obstacle à l'expression de la relation, en fait, de l'amour? Comment arriver à les identifier? Vous nous dites que nous avons pris l'habitude ou que nous prenons l'habitude de ne pas les exprimer réellement ou alors de les exprimer à contre-temps. Comment faire? Quel chemin suivre? Comment arriver d'abord à les reconnaître? C'est pas toujours facile. Et comment arriver à les remettre à leur place?
Ben c'est véritablement un cheminement. Il n'y a pas de truc au sens où en deux temps, trois mouvements, vous allez être en mesure d'identifier toute votre vie émotionnelle. Il y a des gens qui sont très en contact avec leurs émotions, qui les reconnaissent facilement. Mais en tout cas, beaucoup des personnes que moi je vois, je reçois, ben, reconnaissent certaines de leurs émotions, mais pas du tout d'autres. Donc il y a vraiment un travail de prise
par exemple,
conscience.
Parmi vos patients, par exemple.
Ben, bon, certaines personnes vont être facilement en contact avec leur tristesse ou leur joie ou leur colère. Mais voilà, elles vont avoir une émotion préférentielle avec laquelle elles sont très facilement en contact. Mais en revanche, d'autres émotions, elles connaissent peu ou pas leur peur. Elles ne savent pas très bien qu'est-ce que c'est leur colère. Certaines personnes sont très rarement en colère. Donc il va falloir se pencher sur ces réactions. Il n'y a que le quotidien, et justement le quotidien relationnel est immensément précieux à cet égard. En fait, ben, dès qu'on est en relation avec les autres ont un immense pouvoir de déclencher en nous des réactions émotionnelles. Donc il va falloir observer qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'affecte, qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui m'exaspère dans le quotidien. Et donc, si vous observez pendant un certain temps, ben, vous allez remarquer au bout d'un moment que certains types de situations, certains types de personnes vont avoir tendance plus facilement à vous toucher. Donc, peu à peu, vous apprenez à connaître vos points sensibles émotionnels et voir, ben, tiens, voilà, cette situation, elle a le don de me mettre hors de moi ou de me faire très mal tout de suite. Je me sens rejeté, j'ai l'impression qu'on fait pas attention à moi, qu'on m'oublie et j'ai mal, je suis triste, j'en veux aux autres. Voilà. Donc, c'est une investigation, mais qui va prendre un certain temps.
Mais est-ce que c'est une investigation qu'on peut faire seul? Parce que justement, il y a une contradiction. Si on a vraiment du mal à identifier nos émotions, est-ce qu'il est suffisant de s'observer soi-même pour arriver à lever le voile? Ça me paraît compliqué.
C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai voulu faire dans ce livre quand même donner une matière assez précise pour que le lecteur puisse par lui-même quand même déjà faire un certain travail. Certaines personnes, beaucoup de gens lisent beaucoup ce genre d'ouvrage, ont déjà une réflexion, ont une démarche parfois depuis longtemps. Donc, je n'ai pas inventé la lune de ce point de vue-là. Donc, ça existe. Donc, les gens ont déjà fait un travail. Beaucoup de gens ont déjà fait un travail sur eux. Donc, je dirais, c'est une clé supplémentaire qui va leur donner des outils assez précis pour reconnaître leurs émotions, aussi à travers des témoignages. Ça aide beaucoup. Mais comme vous dites, pour certaines choses, on a des points aveugles. Et si on a un point aveugle, bah, tout seul, on ne va pas y arriver. Les autres sont une aide. Bah, si on a des proches, on peut aussi demander à ses proches. Bah, tiens, quand est-ce que tu me vois affecté? Quand est-ce que tu me vois ému? Et les proches, en général, sont très pertinents.
Alors, une fois qu'on a réussi à franchir, d'abord, on n'est jamais sûr d'avoir réussi à identifier toutes les émotions, hein, parce que beaucoup de situations peuvent provoquer des mouvements inattendus aussi.
Bon, mais ce qui est important, c'est les émotions qui sont vraiment des obstacles. Il y a des tas d'émotions qui nous posent pas de problème, donc le but, c'est pas de faire une chasse à l'émotion, c'est de vous reconnaître les émotions qui sont vraiment perturbatrices. Donc la vie émotionnelle est très riche, donc là, je me suis attaché dans ce livre à m'occuper des émotions perturbatrices, pas de toutes les émotions dont des tas ne nous causent aucun souci. Si vous êtes transporté pendant un concert ou devant un paysage, ben, tant mieux et très bien.
Alors, une fois ce stade atteint, quel est le chemin à suivre? Quels instruments pour parvenir justement à les apprivoiser, ces émotions, à les apprivoiser, puis peut-être à découvrir quelle est leur origine. Parce que si je lis bien, et puis on le sait par la psychanalyse et par un certain nombre d'autres choses, si je vous lis bien, l'origine des émotions, elle est souvent très 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 lointaine, elle remonte très fréquemment à la petite enfance, même parfois la toute petite enfance, vous citez plusieurs cas. Quel chemin suivre alors pour parvenir, parce que vous dites bien qu'il s'agit d'apprivoiser ces émotions, d'abord peut-être de les laisser s'exprimer, tout bêtement.
Voilà, donc le fait d'apprivoiser les émotions, ça comporte plusieurs facettes. Déjà, de se rendre compte, est-ce que quand je vois une émotion arriver, comment j'ai tendance à l'accueillir ? On va constater que souvent, on se raisonne, on se juge, on se critique, mais pourquoi je suis comme ça ? Ou au contraire, on se justifie. Enfin, on veut pas vraiment reconnaître, mais oui, il y a une émotion là. Donc, apprivoiser l'émotion, c'est essayer déjà de la vivre pour ce qu'elle est, sans lui mettre une étiquette péjorative ou quoi que ce soit, juste déjà la reconnaître, la ressentir et voir est-ce que c'est si terrible, parce que beaucoup d'entre nous, leur éducation les a conduits à se méfier de leurs émotions en disant attention, te laisse pas aller à la tristesse, tu vas sombrer dans un trou, si tu laisses monter la colère tu vas devenir un furieux ou une furieuse ou un dragon, etc. Et si t'as peur t'es minable, donc de voir, mais je peux ressentir une émotion et c'est pas la fin du monde, c'est pas si terrible, voilà, c'est un bouleversement, mais voilà, je peux le vivre en tant qu'adulte et découvrir par soi-même tous les interdits, les barrières, les critiques qu'on a mis sur ces émotions depuis, comme vous le dites, parfois extrêmement loin dans le milieu familial. C'est aussi intéressant de se demander les émotions fondamentales, comment on les vit dans ma famille, voir est-ce que toutes ces émotions ont leur place et comment elles sont jugées, comme voilà, donc tout ça c'est déjà tout un travail pour se familiariser avec le monde de l'émotion.
Et en allant encore un petit peu plus loin, se familiariser avec le monde de l'émotion, mais vous insistez, alors d'ailleurs le sous-titre de votre livre est éloquent, transformer l'émotion. Vous parlez aussi, vous dites aussi qu'il faut presque bercer ces émotions, les aimer, les trouver justifiées. Oui, mais moi, je vous avoue, franchement, je ne sais pas comment faire face à ça. Comment faire ? Si je suis dans une rage furieuse, comment est-ce que je vais me débrouiller pour me dire, c'est très bien, vraiment, ta colère est extrêmement sympathique, aime-la beaucoup. Ça me paraît pas si simple.
L'image la plus simple que j'ai trouvée pour essayer de faire parler cette notion d'accueil et de bienveillance avec l'émotion, c'est l'image d'un enfant. Quand on est parent, on est confronté aux émotions de ses enfants. Votre enfant qui pique une crise de colère et qui se roule par terre en hurlant, on peut avoir, comme ça se faisait autrefois, je te prends et je te mets la tête sous l'eau froide, je te donne une bonne fessée, je te crie dessus encore plus fort pour te faire taire, je te fais la morale en disant c'est très très vilain d'être en colère, tu n'as pas honte. Bon, on peut traiter une émotion d'un enfant de tas de manières. Ou on peut voir, voilà, cet enfant, il est en rage. Donc, il s'agit pas non plus de le féliciter, t'as bien raison d'être en rage, c'est tous des crétins, etc. Non, c'est voir, il est en rage, c'est un état où il est bouleversé, en fait. Et ce qui est important, c'est d'aider l'enfant, à ce moment-là, à arriver à préciser qu'est-ce qu'il met en rage. Parce que l'émotion nous emporte, et finalement, on finit par plus savoir exactement pourquoi on est bouleversé. Donc, avec nous-mêmes, c'est pareil. Si on est là à se faire la morale ou des reproches avec son émotion, ça nous maintient à la surface de l'émotion. On va se battre avec elle pour essayer de la contrôler et on y arrive très mal. Donc, vous êtes furieuse, vous dites, mais je suis ridicule d'être furieuse, de quoi j'ai l'air, etc. Allez, calme-toi, essaye de te contenir. Mais bon, vous allez continuer à bouillonner, à être tendu, ça va pas être très efficace. Donc, c'est vraiment rentrer en relation avec l'émotion, voir, mais oui, je suis furieuse, je suis en rage, mais au fond, qu'est-ce qui me met vraiment en rage ? Donc, on va commencer à dialoguer d'une manière un peu plus sympathique avec l'émotion pour l'amener à dire ce qu'elle a à dire, en fait. Donc, c'est tout ce changement d'attitude, c'est de ne pas considérer l'émotion comme une ennemie, mais comme une part de nous qui cherche à exprimer quelque chose, une vérité en fait sur nous-mêmes, qui n'est peut-être pas une vérité objective, mais une vérité subjective qui, en tant que telle, doit avoir sa place.
Quand on arrive à identifier ça, justement, à approcher au plus près de ce qui a provoqué cette émotion, mais il va falloir se débrouiller avec ça, avec ce qu'on découvre. Ça aussi, ça demande un travail d'identification et de compréhension. On peut se trouver très démuni face à ça, face à ce qu'on découvre, surtout si, encore une fois, on fait ce chemin seul, sans accompagnement. Enfin, c'est...
Alors, on peut effectivement se trouver démuni, et quand on est vraiment démuni et de manière durable, bah, effectivement, il ne faut pas hésiter à se faire aider. On peut se faire aider d'abord par des proches. Parfois, un proche peut voir quelque chose qui est évident de l'extérieur et nous, on a tellement le nez dedans qu'on ne le voit pas. Bon, et puis si ça ne suffit pas, bah, dans certains cas, il faudra voir un professionnel. Mais le psychisme a aussi ses défenses. Et en fait, ben, ce que je constate, c'est que souvent, on ne va pas plus loin que là où on sait qu'on ne pourra plus maîtriser, en fait. Donc, souvent, quand des gens font des investigations seuls, ils vont jusqu'à un certain endroit, et puis, en général, ça s'arrête. Parce que ce qu'on n'a pas vraiment envie de voir, sauf si, ce qui arrive parfois, comme vous le dites, parfois, on a une révélation brutale et on peut être très secoué. Mais souvent, c'est quand même pas le plus fréquent.
Non, c'est pas le plus fréquent. C'est vrai que on approche petit à petit, on a une idée, mais les résistances, le déni sont là aussi pour jeter un voile. Oui, c'est sûr. Donc, je voudrais revenir sur le sous-titre, parce que transformer l'émotion, donc on les a identifiées, on se fait aider, etc. Transformer l'émotion, ça veut dire se servir de l'émotion pour en faire autre chose? Est-ce que ça veut dire transformer une émotion négative en émotion positive? Qu'est-ce que ça veut dire transformer l'émotion?
Oui. Ben, la notion de transformation, c'est déjà partir de ce qui est là. Donc, il y a un certain état. Moi, je dirais, je partirais même de la souffrance, puisque je fais un distinguo entre souffrance et émotion, en disant que dans la souffrance, en fait, déjà, on est dans un combat avec l'émotion. On vit une émotion, mais comme elle nous dérange trop, qu'elle nous fait mal, on la refuse, on cherche à s'en dépêtrer. Bon, ben, je prends souvent l'exemple de la souffrance amoureuse, de la déception amoureuse. L'autre fait quelque chose qui a un comportement qui nous déçoit, qui nous blesse, qui nous fait très mal. Donc, on est empêtré dans un état de souffrance où il y a des émotions et des pensées négatives. Toujours. Dans la souffrance, il n'y a pas que de l'émotion, il y a toujours de la pensée et de la pensée négative qui va dire « ben voilà, il m'arrive ça, c'est injuste, pourquoi ? Moi j'aime vraiment, l'autre n'aime pas, l'autre m'a trahi, l'autre est un salaud, etc. » Donc il va y avoir, et puis c'est moi, de toute façon, moi je suis pas assez bien, j'entends encore quelqu'un ce matin qui me disait ça, moi de toute façon je mérite pas qu'on m'aime, j'ai quelque chose qui fait qu'on m'aimera jamais. Donc, il y a des pensées négatives sur soi, sur l'autre, sur la vie qui fait que de toute façon, ça sera toujours comme ça, que sais-je. Donc, dans la souffrance, il n'y a pas que de l'émotion. Donc, le premier travail, c'est de dégager l'émotion de toutes ces pensées négatives pour voir, mais si quel est le phénomène pur ? Bon, ben voilà, dans cette situation, je suis triste ou je suis triste et je suis en colère. Parce qu'une autre chose, c'est que si les émotions sont mélangées, on ne peut pas les libérer. Donc, il est absolument impératif de prendre une émotion dans une situation et pas toutes à la fois. Parce que souvent, dans la souffrance, il y a plusieurs émotions à la fois. On est en colère, on est triste, on a peur. Ça fait un magma. Et avec ce magma, on ne peut rien faire, en plus des pensées qui viennent se rajouter là-dessus. Donc, il va falloir faire un tri et s'attacher à une chose à la fois. Donc, essayer de choisir l'émotion qui affleure le plus. Donc ça, c'est le premier travail, passer de la souffrance à l'émotion. Et puis après, une fois qu'on a défini l'émotion qui vraiment est la plus au cœur de la difficulté, bon, on va vraiment rentrer dedans, c'est-à-dire essayer de vivre cette émotion sans frein sans restriction, ce qui est c'est simple à dire, mais pas facile à faire. Comment se laisser aller à l'émotion quand, depuis souvent le plus jeune âge, on s'est entraîné à faire le contraire?
Mais ça fait peur, ça. Oui. Enfin, se laisser aller complètement à la tristesse, par exemple, franchement, ça fait peur. La tendance qu'on aurait serait d'essayer de trouver des moyens pour la minimiser, cette douleur, en tout cas pour l'atténuer tout de suite. D'ailleurs, les enfants font la même chose. Hein. Oui. Quand ils sont tristes, ils se précipitent sur leurs parents pour se faire consoler. Ils ne se laissent pas aller complètement à leur tristesse.
Mais c'est intéressant de voir qu'avec les enfants, des psychologues comme Aletta Salter aux États-Unis ont montré combien c'était beaucoup plus libérateur pour l'enfant de l'accompagner dans son émotion. Et au lieu de vouloir le consoler tout de suite et le couper dans son émotion, d'être à ses côtés, de le soutenir et de lui permettre d'aller au terme naturel de son émotion. Donc en fait, c'est ça dont nous avons besoin aussi en tant qu'adultes. Ben, quand nous vivons une émotion, nous avons besoin plutôt d'être soutenus et accompagnés, pas qu'on cherche tout de suite à nous dire « mais non, c'est pas si grave, ne sois pas triste ». Mais non, c'est pas dangereux d'être triste. La dépression, c'est dangereux. Parce que quand on est déprimé, on a des pensées négatives, et ce sont les pensées négatives qui peuvent nous amener à avoir des gestes suicidaires. Mais la tristesse elle-même n'est pas dangereuse. Donc justement, c'est voir que souvent il y a une confusion entre la tristesse et la dépression, entre la violence et la colère. Mais non, la violence et la colère, c'est pas la même chose. Et donc on va dire la colère c'est dangereux. Non, la colère c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la violence. Donc c'est toutes ces confusions que j'ai essayé dans ce livre de... justement de clarifier ça pour montrer non, l'émotion n'est pas dangereuse, on peut se laisser aller à l'émotion, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être accompagné. Donc si on a des proches qui ont une capacité d'écoute à certains moments, ben, ça va nous aider en fait.
Oui, on peut développer soi-même d'ailleurs cette capacité d'écoute pour être présent
pour les autres,
auprès de son entourage. Oui. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que, en effet, un des meilleurs moyens d'accompagner, enfin d'aider, en tout cas, c'est quand quelqu'un vous exprime un chagrin, une tristesse, une colère, etc., c'est de le laisser parler et de ne pas intervenir, de laisser la phrase se dérouler, même si c'est provocateur, excessif, etc. Et juste dire oui, j'entends ce que tu dis. Oui.
C'est ça la véritable empathie. C'est vraiment se mettre au diapason de l'autre et vraiment ressentir avec lui. Ben voilà, et oui, il est dans la douleur.
C'est la compassion.
Voilà.